Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, on retrace la fabuleuse saga Givenchy avec Monique Younes. On a appris hier la disparition du célèbre couturier français. Samedi soir, Calogero a donné le coup d'envoi à Amiens de son Liberté Chérie Tour. Il sera sur les routes pendant un an, c'est sa tournée record. Steven Bellery a assisté à cette première date et a rencontré l'artiste. Après s'être fait voler le scénario de son prochain long métrage, scénario qu'il n'a d'ailleurs toujours pas retrouvé, le réalisateur Claude Lelouch a décidé de conjurer le sort en transformant cette mésaventure en film, tourné au smartphone. Vous entendrez ses confidences au micro de Stéphane Boutsock. Enfin, Charlotte Latour nous présentera le classique d'or RTL du mois de mars, l'album de la violoncelliste française Anne Gastinel, consacré à un triple concerto de Beethoven.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Monique Younes, nous avons appris hier le décès du couturier Hubert de Givenchy. Il a marqué pendant un demi-siècle le monde de la mode par l'élégance de ses tenues et ses petites robes noires.
Oui, fascinant parcours de cet aristocrate né dans une famille d'artistes qui a voulu dès son enfance devenir couturier. Il tenait son goût pour les beaux tissus de son grand-père maternel, directeur de la manufacture de Beauvais, qui collectionnait les costumes et les soieries. Et quand Hubert avait de bonnes notes à l'école, il avait la permission de passer une heure dans le placard de son grand-père à contempler ses costumes et toucher ses tissus. Et sa passion de la couture était telle qu'à l'âge de 10 ans, il prend le train seul de Beauvais, direction Paris, pour montrer ses croquis à Cristobal Balenciaga, son dieu absolu. Il fut éconduit, mais rien ne pouvait empêcher Hubert de Givenchy de devenir couturier. Écoutez cette anecdote que son ami Claude Tétinger a racontée à Evelyne Pagès.
Dans une petite surprise partie, la maîtresse de maison a renversé une tasse de chocolat sur sa robe. Et alors elle était consternée parce que sa soirée était gâchée. Et alors Hubert, qui avait 16 ans, a été l'homme de la situation avec un drap, un vieux rideau, quelques épingles de nourrice. Il a fait une robe du soir et j'ai vu naître devant moi un couturier.
Alors à la Libération, Hubert de Givenchy a 17 ans et commence comme dessinateur pour différents couturiers en vogue, comme Jacques Fatt, Robert Piguet, Lucien Lelon ou Elsa Schiaparelli. Et puis en 1952, ayant assez de travailler pour les autres, il ouvre sa maison de couture. L'année suivante, en 1953, on lui annonce en pleine collection que Mademoiselle Hepburn veut le voir. Écoutez le récit de cette rencontre par Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy.
On m'a amené chez le plus jeune génie qui venait d'apparaître. Un garçon qui s'appelait Hubert de Givenchy. Et il a fait son apparition, tout grand, tout beau. J'avais besoin d'un tailleur et d'une robe de soie. Il a fait descendre cette robe blanc et noir, merveilleuse, que je mets dans Sabrine, tout brodée à main. Et là, notre vie ensemble est commencée.
J'ai cru d'abord que c'était Catherine Hepburn, qui est une actrice que j'admire absolument. Et je me suis tout à coup aperçu que c'était peut-être une ravissante jeune fille qui s'appelait Audrey Hepburn. Notre amitié, presque amoureuse, je pourrais dire, a commencé comme cela, puisque ensuite, après ça, elle m'a demandé d'habiller tous ses films.
Alors Audrey Hepburn est devenue sa muse, son apparition Fourreau Noir signé Givenchy dans Breakfast at Tiffany's fait partie des scènes cultes du cinéma mondial.
Oui. Hepburn a popularisé les créations de Givenchy, qui l'impressionnait déjà par sa taille, il mesurait 2,5 m, mais aussi par sa précision et son perfectionnisme. Givenchy arrivait à son atelier avenue Georges V tous les matins à 7h30. Il enfilait sa blouse blanche à midonnée que lui avait confectionnée Cristobal Balenciaga. Il exigeait que ses mannequins cabines soient prêtes et maquillées à 9h et sur elles, il essayait ses robes intemporelles, décolletées, fluides, colorées, qui plaisaient autant à Liza Minnelli qu'à Greta Garbo ou Jackie Kennedy.
J'ai habillé Madame Kennedy avant qu'elle soit la première dame des États-Unis et ensuite après pour son fameux voyage à Paris avec le général de Gaulle. Le lendemain de cette soirée, au Théâtre Gabriel à Versailles, elle m'a envoyé un petit dessin elle-même avec un mot en me disant « Le général de Gaulle m'a dit hier soir, madame, vous êtes comme un Watteau ».
Comme un personnage d'un tableau d'Antoine Watteau, ce qui avait beaucoup plu à Hubert de Givenchy, qui était aussi un grand collectionneur. Dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, les toiles de Picasso et de Nicolas de Staël côtoyaient le mobilier de Diego Giacometti, son ami. Après avoir été l'enfant terrible de la mode, puis l'homme le plus élégant de l'année, Hubert de Givenchy était devenu à 91 ans une figure historique de l'art.
Merci beaucoup Monique Younes. Et si vous voulez tout connaître d'Hubert de Givenchy, je vous signale que Paris Première diffusera un documentaire exceptionnel sur le grand couturier. Ce sera dimanche à 10h15. Dans un instant, Calogero en tournée. C'est avec Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
6 mois après sa sortie, la sortie de son 7e album, Calogero vient donc de démarrer sa nouvelle tournée. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez à la première du Liberté Chérie Tour au Zénith d'Amiens, et c'était samedi soir.
Oui, Calogero est apparu avec une guitare, une fois n'est pas coutume, entrée simple, seul, en contre-jour sur Liberté Chérie, avant d'enchaîner avec Suis-je assez clair, rareté extraite de l'album Pomme C, et Voler de nuit, son nouveau single.
Je pense à ça dans mon ciel si vide, en bas éclate des guerres.
Calogero revisite Prendre l'air, sa première chanson en solo, tombe la veste en cuir, puis s'installe au piano.
On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent. Un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales.
Pendant près de 2 heures, Calo alterne moments de tension rock et balade déchirante, un grand huit d'émotions décuplé par de nombreux fondus enchaînés entre les titres. 4 musiciens entourent le chanteur dans un décor époustouflant, mur de spot en fond de scène et barre latérale pour la lumière. Un ensemble de cubes géants en perpétuel mouvement surplombe Calogero. Le tout forme un cadre qui se métamorphose au gré des morceaux. Assurément le tour de chant le plus moderne que Calo ait imaginé.
Mon envie de départ, c'était de travailler avec un garçon qui s'appelle Vincent Lérisson, qui éclairait les lumières de Justice. C'était de ne pas avoir des lumières de concert classique, de proposer quelque chose de différent au public. Oui, des tableaux en fait dont on s'attend pas au départ en fait. C'est une très grosse organisation. Pour moi, la vraie surprise, elle est musicale, hein, avant tout. Le spectacle se passe d'abord avec le chanteur et les musiciens. J'ai un copain qui est venu me voir, il dit c'est fou, t'es complètement excité avec ta basse, et puis d'un seul coup, tu me chantes une chanson toute douce presque à l'oreille au piano. Enfin, j'ai dit, mais tu vois, c'est moi, c'est ma marque de fabrique. Moi aussi, ça me fait des vacances de passer de l'un à l'autre, c'est intéressant.
Je me suis riche que de mes amis. Ce soir, c'est vous.
C'est dit, interprété à la guitare sèche.
Calogero gagne en épaisseur sur disque et en légèreté donc sur scène, m'avez-vous dit Steven?
Oui, le chanteur se paie le luxe de ne pas jouer en apesanteur, de lâcher sa basse pour interpréter Premier pas sur la lune, assis près du public, juste un micro à la main, en quasi-communion avec ses musiciens, tel le leader d'un groupe. Calo bouffe la scène, sautille pendant Julie ou 1987, joue le vélo d'hiver avec des images du Veldiv en fond, rend hommage à ses parents immigrés d'Italie avant prendre racine, nous arrache une larme avec les feux d'artifice, ou cette chanson de 2004.
Tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants, sans nulle autre joie pareille, ni sentiment bleu grand. Un mouton pour l'oreille peut en chacun réveiller un volcan pour qui l'entend.
De spot devient mur de miroir. L'ex-membre des charts sort un mesureur de décibels pendant Aussi libre que moi. Il y aura un concours sur toute la tournée et interprète quelques secondes de Gabriel de Johnny Hallyday. Pourquoi? Réponse de Calogero.
J'étais pas un intime de Johnny. C'est un hommage parce que quand il est mort, j'ai pleuré comme un gamin, comme plein de Français, comme si j'avais perdu un oncle. Comme si d'un seul coup le drapeau français avait perdu un bout, quoi. C'est très bizarre cette sensation. Après on s'y fait, malheureusement on se fait à tout. J'ai ressenti un manque, quelque chose de très étrange. J'ai grandi avec son visage à la télé, quoi. Et c'est mon métier. Je suis chanteur et moi, j'aime la scène. On avait ça en commun et je le fais vraiment en connexion avec lui. Je fais un petit clin d'œil à lui, à Gabriel. Quand je le fais, je me connecte à lui. Je suis avec lui. Et je sais qu'il est là.
Et c'était la folie dans la salle. Calogero est en tournée partout en France. Il chantera vendredi à Brest, le 23 mars à Marseille, le 31 mai à Lyon ou encore 5 et 6 juin à Paris-Bercy. Les plus grands festivals cet été en tournée jusqu'en février 19. Et quand je panique, je joue
de la basse électrique. Merci beaucoup Steven Bellery. Nous allons maintenant vous raconter une histoire vraie qui ressemble à un scénario de cinéma et qui va d'ailleurs devenir un film. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Tout part d'une mésaventure survenue à Claude Lelouch.
Nous sommes le 2 janvier dernier. Claude se gare devant ses bureaux de l'avenue Hoche à Paris. Il pose 3 sacs de voyage sur le trottoir. Il fait le tour de la voiture pour fermer la porte et quand il revient, les sacs ont disparu. Mm-hmm. À l'intérieur, des papiers, de l'argent, un carnet contenant 50 ans de notes et de réflexions, mais aussi un document beaucoup plus important à ses yeux.
Il y avait effectivement dans ce sac aussi le scénario de Oui et Non que je prépare depuis quelques années, qui est un peu une suite des uns et des autres que je voulais faire. Donc ce film, je vais le reporter, le temps de retrouver ma mémoire et tout ce qu'il y avait, parce qu'il y avait un scénario annoté complètement à la main que j'avais et qui était là. Et puis, comme la contrainte sollicite l'imagination et comme le pire n'est jamais décevant, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit très vite l'histoire d'une personne à qui on volait et tout. Sa mémoire, sa vie, sa voiture, son chien qui était dedans. Enfin, j'ai même été au bout du bout. Et c'est un film qui va s'appeler « La vertu des impondérables ». Je crois à la vertu des impondérables, puisque dans ma vie, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté.
Alors, ça c'est du Lelouch, tout craché, oui. Transformer les accidents de la vie en histoire à raconter, ou plutôt à filmer, et quitte à aller au bout de la logique de cet événement imprévu, puisque ce film, La vertu des impondérables, n'était évidemment ni programmé ni financé, eh bien le réalisateur va le mettre en scène avec des moyens beaucoup plus modestes et un matériel inédit pour lui, son smartphone.
Ces nouvelles caméras, je les ai rêvées toute ma vie. Elles arrivent, elles sont là. Nous sommes tous devenus des cinéastes. Bon, il y en a qui filment un peu mieux que d'autres, tant mieux, et c'est ceux-là qui vont jusque dans les salles de cinéma, mais le cinéma est devenu un art naturel. Quand tu vas à un concert, les gens, ils écoutent plus le concert, ils le filment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ces petites caméras qu'on ne voit presque plus, on peut se rapprocher de plus en plus de l'émotion, de la vérité. Donc je vais essayer, je dis bien, c'est un petit laboratoire ce film, ça va être, j'espère, un film expérimental. En plus, je vais le faire dans le cadre des ateliers de Beaune avec mes élèves, avec mes apprentis. J'ai envie de refaire un film d'amateur. Et si ce film est réussi, on le montrera. S'il n'est pas réussi, on le mettra de côté, voilà.
Alors, on va évidemment suivre cette aventure lelouchienne de près. Mais dites-moi, Stéphane, quand Claude Lelouch parle de ces gens qui filment leur vie et la vie n'importe où, fait-il aussi référence à lui-même lors des obsèques de Johnny Hallyday, notamment?
Oui, c'est un moment qui lui a valu des tas de critiques, certains trouvant que ce n'était pas le lieu ou le moment de filmer au smartphone, d'ailleurs, hein, l'arrivée du cercueil de Johnny à la Madeleine. Claude Lelouch nous donne ce matin sa version des choses.
Un cinéaste filme. Ça me paraît quand même assez normal. J'ai passé ma vie à filmer Johnny. En plus, j'avais dit à Laetitia et aux enfants que j'allais leur faire un petit cadeau qui serait pour eux. Donc ce film n'était pas destiné au public, il n'était pas destiné à faire de l'argent, il n'était pas destiné à être exploité. C'était ma dernière déclaration d'amour à Johnny. Et j'avais envie de filmer les yeux de ceux qui avaient vraiment aimé Johnny. Voilà, donc comme j'étais au bon endroit, j'ai dit je vais filmer ces moments d'amour, ces vrais moments d'amour, de certaines personnes qui aimaient vraiment Johnny, et ça fait 60 ans que je me fais attaquer, j'ai passé ma vie à me faire critiquer. Donc c'est tout à fait normal, quoi.
Johnny, avec qui Claude Lelouch avait tourné, rappelez-vous, en 2014, le film « Salaud, on t'aime », dans lequel le chanteur jouait un homme malade qui réunissait ses enfants pour solder les comptes d'une vie où il ne s'était guère occupé d'eux. Alors ça résonne étrangement en pleine affaire de l'héritage et des déchirures des familles Hallyday.
C'est un sujet qui concernait Johnny et moi. Moi, je me suis marié 5 fois, j'ai eu 7 enfants avec 5 dames différentes. Johnny s'est marié plusieurs fois, il a eu des enfants, et donc c'était un sujet qui nous concernait tous les deux. Donc on a parlé de notre expérience. D'ailleurs, le titre le dit bien. Regardez, aujourd'hui, on pourrait salaud en thème. On est au cœur de toutes les contradictions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le problème de l'héritage qui est en cause. Il y a trop de gens aujourd'hui qui attendent la mort de certaines personnes pour des mauvaises raisons. Dès qu'il y a de l'argent, les sentiments en prennent un drôle de coup. Je veux dire, quand vous êtes l'héritière d'un homme très très riche, sa mort peut vous consoler de beaucoup de choses, vous voyez, et arranger vos affaires. Mais c'est intéressant tout ce qui se passe aujourd'hui. Si les gens sont passionnés par l'héritage de Johnny, ils vont rien toucher. C'est tout simplement parce qu'ils pensent à leur petite famille, à eux, à leurs petits héritages, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'on est tous, à un moment donné, les héritiers de quelque chose ou de quelqu'un. Et qu'à partir de ce moment-là, on voit les choses autrement.
Salaud, on t'aime, de Claude Lelouch avec Johnny et Eddie Mitchell, à redécouvrir chez Sony Pictures en DVD.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Dans quelques instants, Beethoven, Anne Gastinel et son violoncelle, et Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Ludwig van Beethoven est à l'honneur maintenant. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez le classique d'or RTL de ce mois de mars. Il s'agit du nouvel album d'une des grandes violoncellistes françaises, Anne Gastinel.
La musicienne a choisi une œuvre qu'elle a beaucoup jouée, un monument du compositeur allemand. Personne n'a jamais osé créer cette forme, un triple concerto. Dans le jargon des musiciens, on l'appelle même le triple. C'est dire s'il est unique. Hein. C'est une œuvre pour violoncelle, violon, piano et orchestre.
Il y a vraiment une part très belle donnée au violoncelle, qui est quand même l'instrument qui, dans chaque mouvement, énonce les thèmes et comme s'il montrait un peu le chemin aux deux autres. Et puis, c'est une partition très exigeante, très, très compliquée, qui fait peur à tous les violoncellistes, y compris moi. On a l'habitude de dire, nous, entre musiciens, ce sont des partitions qui ne tombent pas sous les doigts.
Autre difficulté, outre la partition, on l'a compris, l'œuvre jongle constamment entre musique symphonique et musique de chambre. La musique de chambre, hein, sont des trios, des quatuors joués en petits comités. Alors entre les moments où ne sont présents que le violoncelle, le violon et le piano, et les moments où l'orchestre les rejoint, il faut vraiment un sens de l'adaptation. Et surtout, et ça n'est pas toujours facile quand on est soliste, savoir mettre son ego de côté et avoir la volonté de faire un travail de groupe, d'être à l'écoute, dans le partage aussi. Anne Gastinel a eu le talent de s'associer aux bonnes personnes, son ami le génial pianiste Nicolas Angelich et le violoniste Gil Scham.
C'est le Beethoven pur jus, avec ce côté très abandonné, comme dans le mouvement lent, par exemple, très romantique, et en même temps un côté âpre, terrien, notamment dans le final, où il y a une espèce de folie lâchée. On est déjà vraiment dans la pleine maturité de Beethoven, hein, qui avait à peu près 35 ans, qu'il a écrit cette pièce.
Le concerto a été composé en 1803-1804, soit 113 ans après la fabrication du violoncelle d'Anne Gastinel. À l'origine, écoutez bien, cet instrument était une basse de procession. Le musicien l'attachait autour du cou et défilait avec pendant les événements religieux.
Ils se sont rendus compte au bout d'un moment que c'était des instruments qui n'étaient pas très faciles à jouer parce qu'ils étaient justement trop gros, trop encombrants. Et donc, mon violoncelle a été pas mal retouché, recoupé. C'est un violoncelle de petite taille. C'est un instrument pas capricieux, qui bouge assez peu, qui fasse froid, chaud, humide, sec. Il a vraiment un bon caractère, il est de bonne composition.
On entend... Oui, exactement. On entend bien là, le lien privilégié qu'entretiennent tous ces artistes avec leurs instruments. Anne Gastinel a commencé le violoncelle à 4 ans. Elle a remporté des prix lors de concours internationaux qui lui ont ouvert beaucoup de portes. Et aujourd'hui, elle permet à son tour à ses élèves de pousser des portes puisqu'elle enseigne au Conservatoire de Lyon, en plus de sortir chaque année de nouveaux albums. Ce dernier est une réussite d'équilibre portée par la fabuleuse énergie des musiciens. N'oublions pas d'ailleurs le chef, Paavo Järvi, et l'orchestre de la radio de Francfort, réunis autour d'Anne Gastinel pour cet enregistrement live sans accroc. Le triple concerto de Beethoven est notre classique d'or. RTL, il est paru chez Naïve. Pour info, concert prévu le 20 mai à Rennes, le 24 mai à Coulommiers et le 25 à Béziers.
Tout est dit, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet. Concerto avec Léa Molette, bien entendu.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Julien Courbet.
Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes Monsieur Calvi, je suppose.
C'est la même.
Bon, eh bien c'est parfait.
Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je peux m'excuser.
Pardon?
Je ne me suis pas présenté, je peux m'excuser, oui.
Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est moi?
Oui, Ah, excusez-moi, c'est mon portable en fait qui est en train de faire ça. J'étais en train d'engueuler, de me dire lequel je vais engueuler ce matin de l'équipe qui n'a pas coupé son portable. Eh bien, c'est moi. Vous voyez, voilà, c'est parfait. Eh bien, nous
c'était
avons
David
démarré.
Guetta, non ça, ce que
oui, c'est ça que j'écoute toujours. Voilà, moi, pour moi, une nouveauté.
C'est
vraiment une nouveauté que quand elle a plus de 20 ans.
Oui, c'est ça.
Ouais, exactement. Un peu
remarqué.
Comme Maître Félonneau. Oui.
Vous partagez ce goût avec Hervé Pouchol, entre
oui, effectivement. Bah, Hervé Pouchol, lui, il en est toujours à Caprice et Fini, qui pense être un chart des.
D'écrivains.
Effectivement. Oui, oui, j'ai écouté. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Ah oui.
Alors j'ai juste un problème, je vous le dis, c'est que je n'arrive plus à le couper, mais voilà, je viens de le jeter dans la poubelle, donc il faut que j'aille acheter un nouveau portable tout à l'heure. Merci, on
bonne
y va,
émission.
C'est parti, allez, on y est.